Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant musique avec Ibrahim Malouf. Should I stay or should I go? If you say that you are mine. Bonjour Sacha.
Bonjour Anissa.
Sacha, aujourd'hui on va parler musique et on va partir avec Ibrahim Malouf. Je sais que tu le connais.
Oui, je le connais.
Ah, c'est un pur bonheur, c'est vrai que la trompette, quel instrument magnifique, quel instrument où on peut tout jouer dessus, enfin, c'est fou, on peut aussi bien passer un moment de joie qu'un moment où on trépigne, où on a peur, et d'autres où on est pris par l'émotion totale. Et c'est ce que nous offre Ibrahim Malouf. Waouh. Et quand on voit, il a ses 20 ans de live qui sont prêts pour 2027. Alors, oui, dans une grande salle. La plus grande salle d'Europe. Et oui, c'est là où vous vous dites quel grand monsieur. Parce que pour aller au Paris, la Défense Arena et remplir, il faut vraiment être assez impressionnant en sachant que ce monsieur est indépendant et que pas de maison de disque, rien du tout derrière, il fait tout seul, avec ses petites mains, avec son équipe. Et franchement, je lui tire mon chapeau parce qu'à chaque fois, il fait des choses hallucinantes. À chaque fois qu'il vient nous voir à Paris, c'est assez fou, c'est assez fort. Et j'ai toujours eu des retours en me disant « Oh là là, Vanessa, faudrait que tu ailles voir, faudrait que tu écoutes. » Alors j'écoute et oui, tu es emporté, tu es envoûté par sa trompette. Mais le plus simple, c'est que, eh bien oui, on va vous faire un beau cadeau aujourd'hui. Et pour parler, bien sûr, de cette musique, de cette trompette vraiment envoûtante, j'ai l'honneur d'avoir Ibrahim Malouf au téléphone. Bonjour Ibrahim.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, et vous ?
Ça va, un peu enrhumé, j'avoue. La grippe est passée par là, voilà.
Courage.
Merci beaucoup, c'est gentil. Mais vous nous apportez le soleil avec votre trompette, donc on peut que avoir l'esprit éclairé et ce soleil, cette chaleur que vous
gentil.
Nous donnez.
C'est gentil. La trompette, c'est un instrument qui est assez lumineux, hein, faut dire. Mais vous savez ce que j'adore avec cet instrument, c'est qu'on peut jouer autant des sons très doux, très feutrés, très proches de la voix humaine, comme on peut jouer des sons très forts et très puissants qui peuvent couvrir un orchestre symphonique entier de 120 personnes. Et c'est assez riche, il n'y a pas beaucoup d'instruments qui sont capables de faire ça et d'être à la fois mélodique, harmonique, etc. Donc oui, j'avoue que la trompette est un instrument qui met de la joie.
Oui, tout à fait. Et puis qui apporte aussi une petite part de légèreté.
Oui, et puis vous savez, la trompette, c'est l'instrument le plus vieux au monde. Mmh. Et c'est un instrument qui est cité, c'est le seul instrument qui est cité dans les trois religions monothéistes, donc dans les trois livres, la Bible, la Torah et le Coran. Et c'est le seul instrument qu'on utilise pour les mariages, pour les enterrements, pour célébrer la paix et pour aller faire la guerre. Enfin, c'est vraiment un instrument qui est intégré socialement dans toutes les strates de notre société. C'est un instrument qui est très accessible. Qui sert énormément à l'éducation, notamment dans les zones dans le monde entier, dans les zones où la culture est peu accessible. C'est un instrument qu'on peut jouer à l'extérieur, à l'intérieur. Donc, il y a vraiment j'ai une vraie passion pour cet instrument. Le jour où j'ai découvert la richesse de tout ce qu'il pouvait porter en lui, comme symbole et comme son musicalement.
Oui.
J'avoue.
Et puis ça réveille bien le matin. je me souviens de quelques réveils quand j'étais en école de gendarmerie et qu'on nous réveillait au son de la trompette.
Ah waouh, ah oui, bah voilà, oui, donc il y a les bons côtés puis il y a les mauvais.
C'est ça. C'est un bon souvenir aussi, hein, parce que ça aurait pu être avec les maracas ou les trucs comme ça. Donc, mais non, ça nous mettait tout de suite dans l'entrain de se dire, allez hop, debout, faut se lever, ça y est, c'est fini.
Absolument, ça met du rythme.
Tout à fait. Comment vous êtes venu à la trompette ?
Oh bah c'est simple, moi c'est pas très original. Ma mère est pianiste, mon père est trompettiste. Et qu'est-ce que je fais comme instrument de musique ? Du piano et de la trompette. Donc, c'est vraiment le béaba. Moi j'ai eu la chance d'être né dans une famille de musiciens, mes profs, pas juste musiciens, profs de musique, donc profs dans les conservatoires, ce qui fait que très rapidement, j'ai eu la chance d'avoir des cours, notamment mon père qui me donnait des cours presque tous les jours entre l'âge de 7 ans et l'âge de 14 ans, donc ça m'a permis de progresser très vite et d'apprendre vraiment à bien maîtriser cet instrument, donc c'est voilà, ça s'est fait de manière très naturelle. Et bon, j'aimais pas trop la trompette quand j'étais petit, mais j'en faisais parce que ça me rapprochait de mon père. Et puis, avec les années, j'ai fini par comprendre quels étaient tous les bons côtés de cet instrument et pourquoi c'était un instrument passionnant.
Oui, puis en plus, ça peut mêler plusieurs musiques, le jazz, la musique
plusieurs
classique.
Cultures. Grâce à mon père, en particulier, puisque mon père a ajouté, a inventé une trompette qui permet de jouer toutes les musiques arabes et orientales. Mais en fait, en réalité, c'est bien plus que ça. Ce qu'il a inventé, c'est qu'il a permis à la trompette de jouer les quarts de ton, c'est-à-dire des intervalles plus petits que les intervalles normaux d'une trompette ou d'un instrument occidental. Ce qui fait qu'on peut jouer toutes les musiques du monde. On peut jouer les musiques indiennes, les musiques d'Afrique, les musiques d'Amérique du Sud, les musiques celtiques, bretonnes, occitanes, les musiques gagaku japonaises traditionnelles, etc. En fait, c'est toutes les musiques du monde qui ont des quarts de ton. Et donc c'est fabuleux, c'est une invention incroyable en fait.
Oui, c'est vrai. Et puis vous nous faites partager aussi bien au cinéma, hein, dans des BO. Que vous avez faite avec des films, notamment, on peut parler de Reste un peu, de Gad Elmaleh. Ouais. Comment ça s'est fait, la coopération avec Gad Elmaleh?
Bon, Gad, il est incroyable. C'est du bonheur de travailler avec lui. Il est d'une intelligence incroyable. Il est d'une délicatesse dingue. Dans le vif du sujet, enfin dans le vif du travail, avec Gad, tout est facile, tout est fluide. On a énormément parlé, évidemment, et puis la musique est née de manière très très naturelle, très très facilement. Il n'y a pas eu de souffrance du tout dans le processus, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Quand j'ai travaillé sur certaines musiques de films, je pense à Yves Saint-Laurent, par exemple, lorsque j'ai fait la musique du film Yves Saint-Laurent de Jalil Lespert, avec Pierre Ninet, Guillaume Gallienne, Charlotte Lemont, il y avait vraiment un travail qui a été assez douloureux. Mais au final, bon, le résultat est là. Mais c'est vrai que c'est pas toujours aussi évident. Avec Gad, vraiment, c'est d'une facilité déconcertante. Il est hyper facile à travailler avec. C'était du bonheur. Et en plus, la thématique du film m'intéressait, donc il n'y a rien de mieux que quand on est vraiment passionné par ce qu'on fait.
Oui, avec un peu de joie, un peu de gaieté, et en même temps, une certaine fibre émotionnelle.
Et puis le sujet qui est traité, surtout, c'est passionnant. C'est lui, Gad, qui se met en scène en tant que juif, qui d'un seul coup est passionné par la Vierge Marie, et qui se pose la question de savoir si ce serait une bonne idée éventuellement de se convertir au christianisme. Et puis, c'est sympa, c'est sa famille qui joue dans le film, son père, sa mère, sa sœur, etc. Donc c'est très réaliste, et puis en plus ça part d'une histoire qui n'est pas complètement fausse, hein. c'est aussi une vraie quête qu'il a eue dans sa vie. Donc c'était hyper intéressant, c'est un des plus beaux films sur lequel j'ai collaboré dans ma vie de compositeur de musique de film. J'ai dû faire un peu plus de 20-25 films, et franchement, c'est un des plus beaux films que j'ai pu voir.
D'ailleurs, je vais parler d'un autre film, alors complètement différent et très fort sur le point de vue dramatique, c'est Varsovie 83.
Ah bah oui, là, c'est terrible. Alors ça, c'est un film qui est beaucoup plus... Alors là, le travail que j'ai fait était complètement différent. Il n'y avait pratiquement pas de mélodie, c'était vraiment que des sons électroniques, très sombres. C'était des bourdonnements, c'était presque ce qu'on appelle de l'habillage. Oui. Plus que véritablement de la musique. D'ailleurs, les musiques n'ont même pas de nom de musique. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est vraiment... en gros, c'est track, c'est piste 1, piste 2, piste 3.
Oui, c'est ça, oui.
Oui, parce que c'est vraiment un travail sonore, une très grosse recherche sonore, mais qui n'est pas du tout mélodique. Donc, ce n'est pas vraiment une musique qu'on peut écouter comme ça en se disant, tiens, je vais écouter cette musique pendant que je me balade, quoi. C'est autre chose.
Non, on l'écoute pas trop quand on se balade. On l'écoute en fait avec le film parce que ça prend toute son importance et toute sa signification. Mais c'est vrai que c'est assez poignant et puis aussi complètement différent. 9 jours à Raqqa.
Oui, 9 jours à Raqqa, c'est vraiment. Cette histoire assez dingue de cette femme qui, Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire du film, mais c'est, bon, on voit la Syrie d'après-guerre qui essaie de se reconstruire bon an, mal an. Et on voit ces images, et moi ça m'a rappelé évidemment les images de Beyrouth quand j'étais petit. Moi j'ai grandi entre le Liban et la France, et petit je voyais les ruines à Beyrouth quand je traversais Beyrouth pour aller chez moi. Toute la ville était complètement démolie, détruite, donc je me souviens de ça. Et c'est vrai que les images de la Syrie dans ce film sont très éprouvantes, quoi. Très très éprouvantes.
Ouais, c'est vrai que c'est très très fort. Il y a des films comme ça qui sont très très marquants, comme Le Quatrième Mur aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Oui, bien sûr.
Qui est très très fort et très.
L'adaptation de Serge Saint-Landon.
C'est ça, tout à fait, avec Laurent Lafitte.
Oui, absolument. Très beau film.
Oui. Oui, mais qui montre vraiment l'importance. Et puis c'est saltabanque, ces artistes qui essayent de mettre en place une pièce en donnant des rôles complètement différents aux gens qui ne vont pas parler de christianisme, tout ça, et en fait se retrouver dans un autre contexte, quoi. C'est ça qui était assez fou, assez fort dans ce film, et puis la guerre autour.
Ouais, absolument, je suis d'accord.
Et c'est vrai qu'on aurait pu voir votre trompette aussi dans ce film-là. Je sais pas, moi, c'est l'aspect que j'ai, en fait.
Mmh. Oui, ça me parle, hein, en tout cas.
On va être un peu plus joyeux, on va partir vers le public, cet émoi du public pour la trompette et pour tous les concerts qui vous suivent un peu partout. Qu'est-ce que ça vous fait depuis toutes ces années d'avoir ces personnes qui sont là, qui attendent de nouvelles choses, qui trépignent à chaque fois que vous sortez un album?
Je les remercie de me soutenir, parce que je suis un artiste indépendant, et aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup.
Oui.
Des artistes indépendants et avec la chance que j'ai d'avoir un public aussi large, je crois que je suis vraiment le seul en France. Je crois qu'il y avait le groupe Trio, mais qui a arrêté maintenant, qui était autant indépendant que moi. Mais je crois que sinon, je suis un peu le seul à ne pas avoir de grosses maisons de disques ou de maisons de disques tout court qui sortent mes albums, de ne pas avoir de gros tourneurs qui me produit mes concerts. Je suis vraiment indépendant à 100%. C'est tout ce que je fais. Si un jour ça marche plus, je m'arrête, quoi. J'aurais plus les moyens de le faire. Et en fait, quand je vois que le public est toujours là, me suit, me fait confiance, et je pense que le public voit bien que je me fous pas de sa gueule, que je travaille dur pour ce que je fais, pour que je me bats pour les musiciens, pour les amateurs, pour toutes les strates du milieu de la musique. Dans le monde de la pédagogie, dans le monde de la culture, dans tous les aspects, dans l'improvisation, dans les cuivres, dans tout. Lorsque je pense que les gens sont sensibles à ça, sont sensibles à l'idée qu'il n'y a pas une quête de la personnalité derrière, c'est pas l'idée de devenir une star qui m'intéresse, ni de gagner de l'argent, mais simplement de communiquer du bonheur autour de cet instrument et de faire en sorte qu'on soit tous connectés les uns les autres. Et après, j'en ai fait mon métier, mais je pense que c'est ce qui m'anime depuis toujours, et je pense que les gens sont sensibles à ça, en fait. Hein. Au final, quand on est sincère, quand on est vraiment transparent, sincère et authentique, je crois que les gens sont... Je pense que les gens le savent et le voient. Je pense que quand il y a une démarche différente, ça se sent.
Oui, il y a ce côté généreux et ce côté de se donner avec passion sur scène. Il doit y avoir une sacrée préparation quand même derrière, parce que il y avait, mine de rien, dans cette tournée anniversaire 10 ans d'un disque d'or légendaire, il y avait quand même quelques dates assez fortes. Il y en a une qui arrive, et d'ailleurs, c'est complet. Hein. Désolée pour les gens qui nous écoutent, mais le 10 décembre, il y a Toulouse qui arrive, où vous êtes attendu, mais comme le Messie. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont pris leur place, mais dès que ça a été ouvert à la réservation, c'est assez impressionnant l'engouement qui existe.
Bon, ça me touche beaucoup. Alors, je vous remercie de le dire, mais c'est vrai que je pense qu'encore une fois, la chance qu'on a en tant que musicien, instrumentiste et pas chanteur, c'est qu'on n'a pas la visibilité des chanteurs et des chanteuses. Moi, par exemple, j'ai sorti 20 albums.
Oui.
Tous mes albums sont sortis en tant qu'indépendant. Encore une fois, je leur dis, c'est-à-dire c'est vraiment moi, avec 2-3 personnes autour de moi, on se bat, on va, on les met dans les magasins. Oui, c'est vraiment ça, quoi. Et on les distribue nous-mêmes. Hein. Donc, bon, je ne sais pas si les gens se rendent compte ce que ça veut dire. C'est un truc de dingue. Ça n'existe pas vraiment dans ce milieu. Hein. Et je n'ai pas la visibilité. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais été, par exemple, en 20 albums, jamais une seule fois, ma musique n'a été playlistée dans les grandes radios généralistes françaises. Vous, vous travaillez en radio, vous savez ce que ça veut dire.
Oui.
Ça n'existe pas dans notre milieu, dans notre industrie, dans l'industrie de la musique, ça n'existe pas que quelqu'un qui a le succès que j'ai eu et que j'ai ne soit jamais playlisté dans les radios généralistes françaises. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un artiste aujourd'hui que vous voyez à la télé ou que vous écoutez et que vous pouvez acheter dans les magasins, Carrefour ou je ne sais pas quoi, etc., Cultura, qui n'est pas playlisté en grande radio généraliste française. Il y a toujours au moins un père, France Inter, je ne sais pas qui au moins une fois dans ta vie est playlisté. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu cette chance. On ne m'a jamais soutenu. Et donc, je pense que les gens qui m'aiment très sincèrement, m'aiment pour de vrai. Voilà, ils ne m'aiment pas parce que je suis passé à la radio et parce que ça fait bien de dire j'aime bien Malouf, ou parce qu'il y a un titre qui est devenu un tube et que du coup, c'est à la mode. J'ai jamais été à la mode. En 20 ans, j'ai jamais été à la mode. Et je pense que les gens qui m'aiment, ils m'aiment vraiment, très sincèrement. Alors, ils sont peut-être moins nombreux que si j'étais passé en radio. Mais par contre, ils sont fidèles.
Fidèles, oui.
Et je pense qu'ils m'aiment très sincèrement. Donc, je pense que c'est un rapport très solide. C'est comme dans les couples ou dans les amitiés. Quand on aime les gens pour de vraies raisons, et ben, peu importe les tempêtes, on reste amis. Alors que si on les aime pour les mauvaises raisons, à la moindre tempête, au moindre petit coup de vent, hop, ils disparaissent. Et une histoire de couple, c'est la même chose. Quand on aime la personne pour sa personnalité, pour son histoire, pour ses défauts et pour ses qualités, c'est pas parce qu'à un moment donné, on se dispute que ça s'arrête, quoi. Vous voyez ? C'est un peu la même chose. J'ai un rapport très sain avec mon public. Et ça, je dois avouer que les difficultés que j'ai pu avoir dans ma vie de musicien et dans ma vie médiatique, etc., ont renforcé ces liens. Et aujourd'hui, effectivement, quand j'annonce un concert... je dis pas que c'est complet dans les deux minutes, hein, c'est pas ça. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'aiment bien, ils viennent passer du temps avec moi et on passe des bons moments.
Ah oui, moi j'ai le tableau. Allez, on va dire, il y a 90% des concerts qui sont complets, quoi. C'est assez impressionnant. Et c'est vrai que là, oui, c'est ce que je disais, la préparation, elle doit être intensive quand même, mine de rien.
Oui. Oui, et puis le répertoire que je fais, c'est un répertoire difficile. C'est une musique qui est extrêmement complexe, qui est pas facile. C'est pas de la musique facile, c'est pas du easy listening. Je vais pas citer de nom, hein, mais c'est vrai que dans la musique, il y a énormément de musiques faciles, vraiment qui sont faites pour juste le kiff. Cette musique-là, c'est
commerciale, dirons-nous.
Voilà, mais en fait, disons que la musique qu'on joue sur scène, elle est extrêmement exigeante, et en même temps, elle est faite pour être quand même audible par le grand public. Voilà, je fais pas de musique de niche. Vous voyez, j'essaie de faire en sorte toujours que ma musique soit malgré tout compréhensible. Et ça, c'est j'ai toute mon éducation littéraire, je l'ai faite avec mon oncle Amine, qui est écrivain, Amine Malouf. Et Amine, ses livres, il est académicien, hein, il a pris Goncourt en 93. C'est un homme brillantissime qui a un niveau de littérature qui est absolument incroyable. Mais si vous lisez ses livres, tout est très facile à comprendre, alors que les idées sont extrêmement complexes. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est toute mon éducation littéraire, et c'est ce que j'essaie toujours de faire dans la musique, c'est-à-dire d'essayer de faire des musiques complexes, mais qui sont très faciles à entendre. Et voilà, mon défi, il a toujours été celui-ci. Donc c'est des musiques qui sont en tournée, ce qu'on joue, c'est des musiques qui sont très exigeantes, et très difficiles à jouer parfois même.
Oui, en effet. Et puis après cette tournée, eh bien, bah vous vous arrêtez pas là, hein, parce qu'il y a les 20 ans de live. Et les 20 ans de live, ça, c'est assez impressionnant. Avec Paris, la Défense Arena. Waouh.
Ouais, c'est un gros défi. Et là encore, ça va dans le sens de ce que je vous disais. C'est-à-dire, comme je suis complètement à contre-courant de toute l'industrie musicale, Je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'était de fêter ses 20 ans de tournée dans la plus grande salle de concert d'Europe. Et effectivement, Paris La Défense Arena, c'est 40 000 personnes. Ça va être un peu la folie. D'ailleurs, je conseille aux gens qui ont envie de venir de ne pas trop traîner, parce que comme c'est un événement vraiment unique, ça va être fou, hein, avec tous les invités, avec tout ce qui va se passer sur scène, etc. Ça va être fou. Hein. À un moment donné, on va être plus de 1000 sur scène.
Ouais. Plus de 1000 wow.
Si jamais il y a des gens qui avaient envie de venir, vraiment ne tardez pas à prendre des billets, c'est en train de partir très vite. Il y a déjà deux catégories qui sont complètes. Et après, les gens me reprochent que ce soit complet. Et ils disent, des fois, je reçois sur les réseaux sociaux des gens qui m'envoient des messages qui me disent... Quand même, à nous, tu nous as même pas prévenus. Je peux pas le savoir. Enfin, voilà. Donc, sur les réseaux sociaux, j'en parle beaucoup pour être sûr que les personnes qui me suivent sur Instagram, etc., sont au courant. Mais c'est vrai que voilà, tous ceux qui m'aiment bien, ce concert, ça va vraiment être le point d'orgue de ma vie. Quoi. C'est le plus gros concert de ma vie. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
Et puis après, il y aura la tournée. Hein, les 20 ans
tournée,
de live.
Tournée
alors, pour le moment, il y a quelques dates qui viennent d'être annoncées. Pau, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Luxembourg, Poitiers, Nantes, Lille, Bruxelles, et puis bien sûr Paris, la Défense Arena.
Voilà, c'est ça. Et bon, voilà, ça va être vraiment la fête de mes 20 ans de tournée, quoi. Donc,
comment on sent quand on se dit 20 ans de tournée ?
Mais vous voulez que je vous dise la vérité ?
Oui.
C'est dingue, parce que, en fait, moi, j'appelle ça mes 20 ans de tournée, parce que le premier concert que j'ai fait officiellement avec mon groupe était en 2007. Donc 2007-2027, ça fait 20 ans de tournée. Mais la réalité, c'est que j'ai commencé à faire des concerts, j'avais 9 ans.
C'est mignon.
J'avais 9 ans. Donc j'ai commencé vraiment à faire des concerts. J'ai joué un de mes premiers contrats, j'avais 10 ans, c'était pour le mariage du fils de Jean-Paul Belmondo.
Waouh.
Et je jouais pour son mariage, voilà, pour vous dire. Donc j'ai commencé très très tôt à faire des concerts. En fait, j'aurais pu presque fêter mes 40 ans de carrière à ce moment-là. Mais bon, je trouve ça déprimant. Du coup, je préfère dire les 20 ans.
20 ans, c'est mieux.
mais la réalité, c'est que j'ai vraiment commencé à faire vraiment des concerts en 1989, 89-90. Vous voyez, donc c'est quand même fou. Et alors, je le dis pas parce que c'est prétentieux. Et deux, c'est déprimant. Donc je préfère rester sur mes 20 ans. 20 ans, c'est plus sexy.
Voilà. Oui, c'est très très bien, 20 ans. Hein. On a tous 20 ans, en fait.
On a tous 20 ans.
Ouais. on réduit, et c'est bon, on a tous 20 ans. Est-ce qu'on peut parler de Thomas, la trompette ?
Ouais, écoutez, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, l'instrument a été inventé par mon père. Et quand j'étais petit, mon père me disait toujours, tu verras quand tu seras grand, tous les trompettistes du monde vont jouer cette invention, parce qu'en fait, c'est vraiment un truc en plus, c'est pas un truc en moins, et donc les gens vont se rendre compte que c'est une richesse incroyable, et tout le monde va en jouer, etc. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu à l'évidence, en fait, malheureusement, mon père n'était pas un très bon businessman, et il a jamais été capable, finalement, d'intéresser. Et puis peut-être qu'il est arrivé un peu trop tôt aussi, peut-être que les gens, ça ne les intéressait pas.
Oui.
Et avec la chance que j'ai aujourd'hui, c'est avec le public qui me suit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conservatoires qui nous envoient des messages en nous disant « Ibrahim, c'est incroyable, tous nos élèves qui viennent s'inscrire dans nos conservatoires, en fait, ils nous disent tous qu'ils veulent jouer comme vous, et ils veulent jouer votre musique, etc. » Et je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire quelque chose. Et donc j'ai créé une marque de trompette qui s'appelle TOMA, qui veut dire Trumpets of Michel-Ange, Trompette de Michel-Ange. Et cette marque, en fait, c'est la seule qui vraiment propose une trompette pas chère du tout et qui permet à n'importe qui, avec une très grande qualité d'instrument, de jouer les quarts de ton et donc de pouvoir jouer toutes mes musiques, mais aussi de jouer plein d'autres choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les quarts de ton existent dans toutes les musiques du monde. Donc c'est une porte ouverte sur le monde entier. C'est l'équivalent organique de Internet, si vous voulez. Donc, mais c'est assez passionnant, et donc j'ai mis ça en place il n'y a pas très longtemps, à peu près un peu moins d'un an. On en a vendu vraiment déjà pas mal dans le monde, et c'est en train de prendre vraiment de plus en plus de place au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Donc c'est en train de se développer beaucoup, et je suis très très fier de ça, parce que finalement je contribue à faire en sorte que le rêve de mon père se réalise, et j'espère que finalement un maximum de trompettistes finiront par jouer cette trompette, et que les trompettes normales, qu'on considère aujourd'hui comme étant normales avec les trois pistons, ça... J'espère que dans quelques temps, on considérera que c'est un peu ringard et que définitivement, la trompette la plus moderne maintenant, c'est celle qui permet de jouer tous les quarts de ton.
Je voudrais revenir aussi sur un spectacle. C'est le spectacle Monsieur X de Mathilde May. Ah oui. Ouais. Eh oui, qui était interprété par Pierre Richard et récompensé en 2020 par le Molière du meilleur seul en scène.
Absolument.
C'est aussi une grande histoire.
Bah, c'est une super histoire. Travailler avec Mathilda, d'abord, c'est passionnant. C'est une femme incroyable qui a une créativité complètement hors norme, avec une passion pour la musique, pour les sons, pour le théâtre, pour la mise en scène, pour tout ça. Enfin, vraiment, c'est une femme dingue de à la fois musique et tout. Et évidemment, Pierre Richard, quoi, la légende vivante. Incroyable de travailler avec lui. Il est vraiment passionnant, lui aussi. Et je l'ai vu travailler, quoi. Je l'ai vu à l'œuvre, comment il construit son personnage, etc. Franchement, c'était incroyable. Et évidemment, ouais, couronner cette collaboration par le Molière du seul en scène, c'est génial, quoi. C'était une très belle aventure.
Et puis, comme le papa, la transmission, ça c'est important. Le fait d'enseigner la trompette et l'improvisation dans les conservatoires.
Oui, c'est fondamental même, je dirais. En 2021, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La petite philosophie de l'improvisation ». Petite philosophie de l'improvisation. Et je détaille dedans pourquoi l'improvisation est fondamentale dans nos vies, pourquoi il faut réintégrer l'improvisation dans l'enseignement musical, pourquoi l'improvisation peut être intégrée dans tous les éléments de l'enseignement, même dans les milieux scolaires, et que ça peut nourrir, nous apprendre en fait à être plus souple, à nous adapter dans les situations de la vie, etc. etc. Il y a tellement de choses à dire, je pourrais vous en parler pendant 3 heures. Mais c'est vraiment quelque chose de passionnant. Et donc j'ai sorti ce bouquin, mais après avoir enseigné au conservatoire, j'ai créé la classe d'improvisation au conservatoire de Paris, il y a quelques années, et je suis ravi parce que je vois qu'elle continue maintenant. J'ai donné 6 ans de cours là-bas, et après je pouvais plus, évidemment, j'avais plus le temps. Mais ça a été vraiment hyper intéressant, très intense, et je continue à enseigner à travers à travers plusieurs initiatives, un orchestre que j'ai créé qui s'appelle le Free Spirit Ensemble, donc l'ensemble des esprits libres, et c'est un ensemble de musique classique spécialisé dans l'improvisation. Donc ça, c'est vraiment un projet que je développe. Et puis, je continue à enseigner aussi dans le cadre d'une académie pour les trompettistes qui apprennent à jouer la trompette à quart de ton, où j'enseigne gratuitement. Je leur enseigne gratuitement à jouer de la trompette à quart de ton. Et là, par exemple, la quatrième édition de cette académie aura lieu... Non, la troisième aura lieu demain à Bordeaux. Et puis la quatrième aura lieu au Caire. Le 20 décembre, et puis comme ça, c'est une académie itinérante où partout où je vais dans le monde, j'enseigne gratuitement à en jouer.
Waouh! Ça, c'est impressionnant. C'est beau, en fait, le devoir de transmission que vous avez mis en place et le fait aussi d'inviter ces jeunes à venir sur scène, partager la scène avec vous.
Bah, c'est le béaba, hein. Moi, quand j'étais petit, très vite, on m'a proposé de monter sur scène pour jouer. Parce que je vous disais, hein, je commençais à faire des concerts très tôt. Et c'était d'être sur scène qui a réveillé en moi cette vocation, qui m'a donné envie d'aller plus loin, qui m'a fait sentir que confiance en moi et qui m'a fait sentir que j'avais peut-être des choses à faire dans la musique, dans ma vie. Et ça a été les Américains disent un turning point. Donc ça, voilà. Et donc c'est finalement la même chose. Hein. J'essaye de stimuler et de réveiller des vocations chez les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, en les invitant sur scène.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Ibrahim. Merci de nous avoir fait partager votre musique et surtout votre passion.
C'est un plaisir, merci à vous. Et puis voilà, à très bientôt.
Oui, on se voit très bientôt, hein. Là à Toulouse, le 10 décembre pour le concert. Attention, hein, les gens sont prêts là, ils sont dans les starting blocks. Hein.
Ça tombe bien, moi aussi. Allez, rendez-vous là-bas.
Bah oui, rendez-vous là-bas, hein, le 10 décembre pour tous ceux qui ont pris leur place. Bah oui, parce que c'est complet, hein, je suis désolée. Sauf s'il y a des vendeurs à la sauvette devant qui vous vendent les places. Ça peut exister, hein. C'est vrai, on voit beaucoup de personnes qui achètent et revendent après par la suite à prix d'or parce que on sait que... ce concert est important et que les gens ne veulent pas le rater. Et donc ça amène énormément de monde, quoi. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Et il fait lever les foules. Oui, avec sa trompette, avec son équipe, avec ça. Son émotion, sa passion, tout ce qu'il y a, tout ce qui vous a parlé aussi, sa transmission, il aime transmettre et on reçoit énormément, que ce soit le public, que ce soit les jeunes qui puissent rencontrer dans les différents conservatoires où il va, où il prend du temps pour y aller. Alors malheureusement, il n'a pas le temps qu'il voudrait pour tout faire, mais il s'y emploie petit à petit et il est là, il est présent. Et quand il nous parle de cette trompette Thomas, T-O-M-A, et tu te dis waouh, c'est hyper, hyper impressionnant ce qui a été fait et ce qui a été mis en place par Ibrahim Malouf en collaboration avec Adrien Jaminet et Antoine Courtois. Pour faire cette trompette et apporter quelque chose de fou et de magique à certaines personnes qui ont envie de faire de la trompette ou le sont déjà et aiment voilà, l'Académie des trompettes de Michel-Ange par exemple. C'est ça qui est assez fou. J'aime sa façon de voir les choses, j'aime sa passion, j'aime la transmission qu'il met et on ressent tout ça. Et quand vous écoutez un de ses morceaux, mon Dieu, mais vous êtes complètement bercé et emporté et c'est l'évasion totale, que ce soit dur comme dans certains films où il fait la BO ou dans certains spectacles quand c'est plein d'émotions. Mis en place par pas mal de monde et c'est ça qui est fort parce que même quand il choisit de faire la BO d'un film, il met ses tripes, il met son cœur et il nous enchante. Il va nous tirer des larmes ou il va nous faire pleurer de joie. C'est tout un art avec Ibrahim Malouf et on a hâte. Donc, rendez-vous, oui, ce 10 décembre pour le voir, pour l'écouter et pour découvrir tous ces sons qui sont magiques. Et puis, pour les autres qui n'ont pas pu, il revient. Et oui, il reviendra pour les 20 ans de live. Donc, le Paris, la Défense, la Arena, il nous a dit hein, plus de 1000 personnes sur scène. Rendez-vous compte, ça va être un concert à ne pas rater. Donc, Toulousains et tous ceux qui nous écoutent un peu partout en France, eh bien, prenez vos places pour Paris, la Défense Arena, le 10 avril 2027, pour les 20 ans de live d'Ibrahim Malouf, parce que ça va valoir le déplacement et je peux vous dire que Sacha qui est derrière son ordinateur, il est là, il me fait oui, je peux y aller, oui. C'est vraiment le truc, il est prêt à prendre le train pour y aller en 2027. Voilà, donc ce sera pas, enfin il ne faudra pas le rater. Et puis après, comme je l'ai rappelé, juste avant le 10 avril, il nous fait un petit coucou. Il va aller à Pau le 24 mars, il va aller le 25 mars à Toulouse, le 26 mars à Bordeaux, le 27 mars à Montpellier, le 30 mars au Luxembourg, le 31 mars à Poitiers, le 1er avril à Nantes, le 2 avril à Lille, le 3 avril à Bruxelles. Voilà, et le 10 avril 2027, Paris, la Défense, Arena. Ça, c'est la mise en bouche, hein, le petit truc avant. Et puis, peut-être qu'il y a d'autres dates qui vont se rajouter au fur et à mesure. Mais en tout cas, n'hésitez pas, parce que ce sera l'apothéose le 10 avril 2027 au Paris, la Défense, Arena. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller découvrir les albums, les 20 albums qu'a sorti Ibrahim Malouf, qui sont vraiment très très forts, très beaux, aussi bien enlevés, émotion. Il peut tout faire avec une trompette et il nous le prouve à maintes et maintes reprises. Et nous, Eh bien, on va vous passer un petit morceau parce que on a envie de vous donner encore plus l'eau à la bouche d'Ibrahim Malouf. C'était Chaud Devant, musique avec Ibrahim Malouf. Merci beaucoup à Ibrahim pour l'interview. Merci pour ce moment de passion, de transmission, de générosité que tu nous as fait passer par téléphone. Et rendez-vous, oui, rendez-vous le 10 décembre à Toulouse. Bah oui, c'est complet, donc n'hésitez pas à aller le voir au Zénith. Et puis prenez vos places, hein, prenez vos places pour le Paris La Défense Arena le 10 avril 2027 pour les 20 ans de live d'Ibrahim Malouf. So if you want me off your back, well come on and let me know.